Bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'armée congolaise a annoncé lundi 19 janvier s'être déployée dans la ville d'Uvira au sud de Kivu. La rébellion ASM-23, soutenue par le Rwanda, s'en est retirée le samedi 16 janvier, répondant, selon lui, à une demande américaine. Les Wazalendo ont fait leur entrée dans cette ville le dimanche matin. Il s'en est suivi des scènes de pillage des magasins d'habitation et certains bureaux de l'État. Pour sa part, le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce la mise en œuvre d'un plan de restauration progressive de l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira et ses environs. Selon le gouvernement, ce plan inclut des mesures sécuritaires, judiciaires et humanitaires coordonnées destinées à rétablir durablement la sécurité, protéger les populations civiles et favoriser la stabilisation de cette partie du territoire national. Quelle analyse faire du retrait de l'ASM-23 d'Uvira, survenu 40 jours après l'occupation de cette ville? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Jean-Jacques Pourroussi, il est gouverneur de la province du Sud Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur Jean-Jacques Pourroussi. Jean-Jacques Pourroussi, est-ce que vous êtes là? Aussi en ligne, Rigen Muviri, il est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Bonsoir Rigen Muviri.
Bonsoir Guy, bonsoir aux auditeurs.
Et lui qui n'est pas encore là, il va nous rejoindre, c'est Jean-Baptiste Mouine de Kwasekwa, il est député national honoraire, il est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement et SIDE en sigle, parti membre de la coalition Lamouka, il est également notable de la province du Nord Kivu. Il sera là, il n'est pas encore arrivé ici au studio. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous le disions, le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce la mise en œuvre d'un plan de restauration progressive de l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira et ses environs, intégrant des mesures sécuritaires, judiciaires et humanitaires coordonnées en vue de rétablir durablement la sécurité, de protéger les populations civiles et de favoriser la stabilisation de cette partie du territoire national. Cette décision intervient à la suite du retrait forcé de l'ASM-23 soutenu par l'armée rwandaise et de la ville d'Uvira. Élise Kavira pour les explications.
Pour le gouvernement congolais, ce retrait n'est pas à considérer comme la fin de l'agression, ni comme une modification de la situation sécuritaire générale, plutôt comme un développement ponctuel. Il soutient que la seule perspective acceptable demeure le départ total, effectif et sans condition de l'AFC-M23 et l'armée rwandaise de l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Dans le but de rétablir l'autorité de l'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo affirme que les retours progressifs des FARDC, de la police nationale et tous les services de sécurité se poursuit dans la ville d'Uvira et ses environs, conformément à leur mission, notamment assurer la sécurité des personnes et leurs biens, et contenir les effets néfastes résultant du chaos programmé laissé par l'AFC-M23. Dans son communiqué publié ce lundi 19 janvier, le gouvernement congolais dénonce la déportation des populations civiles, notamment les membres de la communauté des Banyamulenge, dont certains ont été forcés de quitter la ville d'Uvira par l'AFC-M23, dont l'objectif de se servir d'eux pour justifier leur présence sur le sol congolais.
Merci à vous, Élise Kavira. Jean-Jacques Porossi, gouverneur de la province du Sud Kivu, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là. Bonjour à tous.
Bon, bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Et la première question à vous poser, c'est quelle est la situation aujourd'hui dans la ville d'Uvira?
Dans la ville d'Uvira, la situation est très calme. Tous les services de l'État ont repris, les marchés ont repris, les centres de santé.
Allô? Allô, monsieur le gouverneur? Allô, monsieur le gouverneur? Apparemment, un problème de connexion. Allô, monsieur le gouverneur, on ne vous suit plus? Voilà. Monsieur le gouverneur Pourroussi, est-ce que vous êtes là? Allô, monsieur le gouverneur, est-ce que vous êtes là? Rigen Muviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC. Votre analyse par rapport au retrait de l'ASM-23 de la ville d'Uvira?
Merci pour l'invitation, pour la question. Bien sûr, on regarde encore cela avec beaucoup plus de prudence, étant donné que ça vient juste de se passer. Et on sait aussi qu'il y avait déjà eu une première annonce de retrait qui n'avait pas été respectée. Et là, on nous parle du retrait du M23 d'Uvira. Oui, on a vu le retour de l'armée congolaise et surtout de Wazalendo. Mais ça ne signifie pas que le M23 a quitté toute la zone. Les informations à notre disposition sont en état de troupes du M23SC et de l'armée rwandaise qui sont encore dans la zone, notamment dans la plaine de la Ruzizi. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas considérer que c'est qu'il n'y a plus de risque de confrontation directe entre l'armée congolaise et le M23. Je pense que la situation est encore à observer. Mais on peut reconnaître quand même que au moins la pression américaine a pu faire fléchir le M23 qui déjà à l'époque en décembre disait ne pas être concerné par les accords de Washington, mais ils ont été obligés de quitter la ville d'Uvira au nom de ces mêmes accords.
Allô, Regan, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, et voilà. Comme les rebelles, vous l'avez dit aussi ici, hein, comme les rebelles se sont retirés sous pression américaine, cela voudrait dire que cette même pression peut être utilisée pour leur demander de libérer aussi Bukavu et pourquoi pas Goma?
Je suppose que oui, mais en fait la question, il faut regarder les deux contextes. L'accord de Washington s'est passé après la prise de Goma et de Bukavu, à différence d'Uvira. Donc il faut se rappeler que cette nouvelle escalade a été lancée par le M23 et l'armée rwandaise à partir du 2 décembre, et c'était avant la réunion de Washington entre les présidents congolais, rwandais et américains, qui s'est passé plutôt après, et la prise de la ville d'Uvira a eu lieu le 10 décembre. Donc vous voyez déjà le contexte, et vous voyez aussi que les États-Unis avaient tout intérêt à montrer que cet accord-là ne peut pas être bafoué comme cela. Alors qu'à ce qui concerne Goma et Bukavu, le contexte était tout autre. Et malheureusement, la rébellion s'est a passé beaucoup de temps là, à partir du 27, on va parler du premier anniversaire de la prise de la ville de Goma. En février, ça sera aussi le premier anniversaire de la prise de Bukavu. Et donc, j'ai comme l'impression qu'il s'est passé beaucoup de temps pour que, sans un accord concluant dans le cadre du processus de Doha, il me semble qu'il sera difficile que la rébellion quitte toutes les zones qu'elle occupe actuellement.
Et justement, après ces retraits de la ville d'Uvira, comment vous entrevoyez la suite de la mise en application de l'accord de Washington entre le Rwanda et la RDC?
Je pense que le plus grand défi, c'est le cessez-le-feu, parce qu'on parlait du cessez-le-feu, ensuite du retrait. Mais malheureusement, il n'y a pas encore eu cessez-le-feu, presque sur tous les fronts, en fait. Et ça, c'est la plus grande crainte. Étant donné que chaque fois qu'il y a encore de risque de confrontation, ou quand il y a encore des confrontations directes, il y a de risques de changement de situation sur le terrain, notamment en termes d'occupation des zones. Et donc, ça ne sert presque pas à grand chose qu'aujourd'hui on puisse demander le retrait du M23 de Uvira et qu'ensuite il puisse s'étendre beaucoup plus dans le territoire de Mwenga et qu'il puisse aller vers Walitale ou encore beaucoup plus vers Fizi tout en contournant la ville d'Uvira. Donc, je pense que le cessez-le-feu devait être l'objectif urgent. Ensuite, travailler sur d'autres questions, notamment il y avait la question des libérations des prisonniers. Il y a aussi des questions surtout humanitaires, les questions d'accès à l'aéroport de Goma, toutes ces questions-là. Il y a beaucoup d'autres questions importantes, mais avant tout, il faut qu'il y ait ce cessez-le-feu qui n'est pas malheureusement encore une réalité.
Merci, Regan Viri. On vous garde encore dans cette émission. On me signale que le gouverneur est de retour. Monsieur Jean-Jacques Mourousse, vous êtes là?
Oui, je suis là. Merci.
Voilà, ça s'est coupé. Au moins, vous parliez, n'est-ce pas, de l'actualité aujourd'hui dans la ville d'Ouvira. Vous avez dit que la situation est calme aujourd'hui. Et puis, après, on n'a pas pu vous suivre parce qu'il y avait eu ces problèmes de connexion.
Très bien, merci. La situation est très calme. Les activités ont repris normalement, et puis la reprise de la ville par les FARDC et la police nationale congolaise ainsi que nos services de renseignement. Et donc aujourd'hui, ils ont passé toute la journée en train de faire des ratissages, mais aussi d'assurer la population sur tous les actes. Donc la vie a repris progressivement et demain, une première équipe de l'administration provinciale va déjà local de sécurité qui se tiendra à Uvira et dans les quelques jours, toute l'administration va définitivement s'installer.
Monsieur le gouverneur, vous avez activé les modes main libre?
Oui.
Oui, essayez de parler normalement, vous désactivez ces mots-là parce que on sent un écho. Voilà.
Alors, oui, vous m'entendez?
Oui, on vous attend. Monsieur le gouverneur, l'ASC-M23 aurait menacé de retourner dans la ville aujourd'hui parce que selon certaines, certaines informations, cette rébellion, c'est l'intérêt du fait qu'en quittant la ville, elle a demandé qu'une force neutre, donc la MONUSCO, puisse se déployer dans la ville et non la FARDC et les Ouazalendo comme cela s'est fait actuellement. Est-ce que vous confirmez cette information sur la menace du M23 de retourner dans la ville d'Ouvira?
Les menaces, hein, il y en a toujours avec ce mouvement rebelle, mais la réalité est la suivante. Je ne sais pas si les gens ont lu les accords, c'est-à-dire les accords de ainsi que ceux de Washington sont très clairs. On a parlé d'un retrait unilatéral et inconditionnel du M23 vers les positions acquises par ce mouvement avant Doha et Washington. Et ces positions sont localisées sur la RN5, à environ 70 de la ville d'Ouvira, c'est-à-dire à Kamagnola. Et sur l'autre axe, sur le territoire de Ngwech, plus précisément à Kaziba. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas respecté ces engagements, en ce sens qu'ils se sont retirés contraints et forcés, et se sont retirés seulement une vingtaine de kilomètres de la ville d'Ouvira, c'est-à-dire Sangé, ils occupent, enfin, ils sont encore à Sangé, Luvungi, mais aussi à la sucrerie de Kiliba, et donc ils sont à une vingtaine ou une trentaine de kilomètres. Ils devaient être à une soixante-dizaine de kilomètres.
Mais ils sont à une vingtaine
de kilomètres. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, oui, c'est que au niveau de l'autre axe, hein, ils sont à Lemera. Lemera, c'est à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Ouvira. Et donc, cette histoire, et puis ce n'est pas à eux de fixer les conditions. Les FARDC se sont réinstallés et les FARDC font un travail fantastique où la communauté internationale a déjà félicité l'État congolais par le fait qu'ils... Et seulement la tactique que l'AFC-M23, appuyée par le Rwanda, a utilisée, c'était, la stratégie du chaos, au moins, ou le chaos. en allant demander aux populations Banyamulenge, qui sont des compatriotes congolais, de quitter, de les suivre, de quitter la ville, contraints, forcés, les doigts à la gâchette, hein. Et donc, quand les FRDC sont rentrés, toutes les familles qui ont pu se cacher contre les Banyamulenge et contre la FM23, toutes ces familles ont pu être recueillies par les FRDC et réinstallées dans leurs biens. Voilà un peu la réalité.
Voilà. Lorsque vous dites que la situation est redevenue calme, est-ce que les activités ont repris, notamment les commerces, les écoles, est-ce que les élèves ont repris les chemins de l'école?
Les élèves ont repris les chemins de l'école, les commerces ont repris, les magasins ont repris. Nous avons une session de travail, nous venons de terminer une réunion du Conseil de sécurité élargie au Conseil des ministres. Là, demain, nous avons une autre réunion pour inviter les différentes institutions bancaires qui doivent répondre à leurs activités. Eh bien, tous les services de l'État ont repris et le Conseil local de sécurité que nous tenons demain va clarifier toutes ces questions et la vie a repris.
Et donc, en vous suivant, on a l'impression que tout va très bien actuellement. Et donc, même les populations qui avaient quitté la ville pour se réfugier ailleurs, ces populations peuvent revenir maintenant.
Bon, les populations ne vont pas revenir parce que nous continuons à faire le check des mines antipersonnelles que les ennemis ont déposées ici et là, y compris dans le bureau du gouvernement provincial et dans le bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi de suite. Donc là, nous ne sommes pas installés dans ces locaux, nous avons trouvé d'autres formules. Et pour la population, nous avons demandé sciemment à nos populations déplacées, à nos populations réfugiées, d'attendre encore 2 ou 3 jours avant de rentrer. Et donc c'est nous, c'est la province, en collaboration avec les services amis burundais et tanzaniens, qui allons donner le go-ahead pour demander à la population quelle date ils peuvent rentrer. Parce que vous comprenez que nous avons plus de 300 000 personnes réfugiées pour les ramener dans un contexte où des mines antipersonnelles ont été placées ici et là, où les gens ont été payés en civil pour essayer de créer le chaos. C'est qu'il y a eu le cas, hein, les jours où ils se sont retirés, ce n'étaient pas des Ouazalènes, ce sont des gens qui étaient payés pour tuer, blesser, faire partir tous les Banyamulenge. Eh bien, dans ce contexte, il faut être beaucoup plus prudent. Voilà pourquoi tout ça...
Monsieur le gouverneur...
Histoire de quelques jours.
Voilà. Et à quand les retours du gouvernement provincial dans cette ville d'Ouvira?
Le gouvernement provincial d'ici 2 jours. Je dois dire d'abord qu'une équipe d'avance est déjà entrée. Donc, une partie de l'équipe est déjà dans Ouvira. Une autre va partir demain, et d'ailleurs c'est cette équipe qui va organiser le conseil local de sécurité, et 2 jours après il y aura le conseil provincial de sécurité avec tous les acteurs impliqués, c'est-à-dire les services des renseignements, l'armée, la police, l'ordre opérationnel, c'est-à-dire les services de préparer tout ça, parce que vous comprenez que ceci implique des questions transfrontalières. Donc, on travaille avec les autorités tanzaniennes et les autorités burundaises, c'est-à-dire les gouverneurs des provinces, des communes, des préfectures, ou du moins des provinces voisines du Sud Kivu. Pour le Burundi, la province de Bujumbura, la province de Cibitoke, la province de Bubanza et la province de Rumonge.
Monsieur le gouverneur.
Et pour la Tanzanie, à la province de Kigoma. Donc on travaille, il y a des questions transfrontalières qui nécessitent qu'on puisse se concerter d'abord pour assurer que les intérêts des uns et des autres sont rencontrés dans ce développement.
Oui, autant les rebelles ont quitté la ville sous pression américaine, autant on peut utiliser la même pression, n'est-ce pas, pour leur demander de libérer d'autres villes comme Bukavu et Goma, n'est-ce pas, monsieur le gouverneur?
Il n'y a rien à faire. La dynamite est lancée. C'est ça ce que j'ai dit encore à la population il y a quelques jours. Nous allons rentrer à Bukavu. C'est très bientôt.
La dynamique est là, c'est-à-dire que nos forces de défense et de sécurité sont très très bien positionnées et les efforts diplomatiques sont très bien positionnés. Jamais et au grand jamais nos forces de défense et de sécurité n'ont été aussi bien encadrées. La relation n'a été aussi régulière et améliorée. Et donc, en tant que gouverneur, représentant spécial du président de la République, chef de l'État, que je remercie au passage pour tous les efforts consentis dans ce sens, et l'arrestation, la mise aux arrêts des hautes personnalités politico-militaires qui ont été trempées dans des magouilles incroyables dans la gestion de ces opérations depuis qu'elles ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, tous ces efforts engagés par le gouvernement congolais à travers le président de la République, chef de l'État, sont en train de payer. Et donc, nos forces ont infligé des défaites sérieuses à l'ennemi, à plusieurs reprises. Ceux qui ont suivi les combats de Makobola 1, Makobola 2, Katongo et tous ces endroits, ils connaissent l'histoire. Nous sommes en train de suivre la situation de près. Nous savons ce qui est en train de se passer. Donc, sur le plan militaire, nos forces sont très très bien positionnées et sur le plan diplomatique aussi, nous suivons tous, les efforts sont très très bien engagés pour que on connaisse maintenant la vérité, ce qui est en train de se passer sur le terrain. Donc, il n'y a aucun doute que nous allons récupérer l'intégrité territoriale sur non seulement au sud Kivu, mais aussi au nord Kivu et partout où cette question se pose.
Merci.
Nous, on est optimiste, on n'a aucun doute là-dessus.
Voilà, merci pour cet optimisme. On vous garde encore dans cette émission, monsieur le gouverneur. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous êtes député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, le parti membre de la coalition La Mouka. Vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. L'ASM23 s'est finalement retiré après avoir beaucoup hésité. Comment vous analysez ces retraits du M23 de la ville d'Uvira?
Nous saluons ces retraits. Toute décision allant dans le sens d'alléger les souffrances de nos populations mérite applaudissement, mérite acclamation. Nous estimons que très très rapidement, le gouvernement central devrait apporter un appui significatif pour que l'autorité provinciale, le maire de ville, toutes les autorités locales de ces entités libérées soient accompagnées, leur donne la capacité de maîtriser rapidement les conditions nécessaires à la sécurité et que cela permette à ce que nos compatriotes dans les camps des réfugiés à Ruigi, à Rumonge, à Chibitoke, à Noir, dans le Burundi, puissent rapidement regagner leur Uvira natal. Mais cela m'amène quand même à réfléchir. J'ai bien suivi l'autorité provinciale qui dit qu'ils ne se sont pas retirés tel qu'attendu. On aurait voulu qu'ils se retirent jusqu'à Kamagnola, c'est-à-dire à 75 km, et présentement, ils ne sont qu'à une trentaine. C'est là que ça me fait mal. La ville d'Uvira est tombée entre les mains du M23, armée rwandaise, le 10 décembre, soit 6 jours après la signature des accords de Washington. Ces accords n'ont pas été signés pour que, à contrepartie, les États-Unis nous aide simplement à pousser le M23 jusqu'à Kamagnola. Non. Ce que les Congolais attendent, ce que disent, ce que dit l'accord du 27 juin 2025, c'est que 90 jours avant le lancement du cadre d'intégration économique régionale, la question des FDLR, qui se trouve par ailleurs dans les territoires sous contrôle AFC M23, devait avoir été réglée. Dans les 90 jours, c'est-à-dire jusqu'au plus tard, le 27 septembre 2025, les troupes rwandaises devaient s'être retirées de notre territoire en application de la résolution 2773. Curieusement, qu'est-ce que nous avons constaté? Les États-Unis ont fait pression sur la RDC pour que la RDC signe le 7 novembre 2025 le cadre d'intégration économique sans que les troupes rwandaises ne se soient retirées de Goma, de Bukavu, de Bunagana, de Lubero jusqu'à ce jour. Pire, le 4 décembre, les États-Unis ont obtenu de la RDC la signature du fameux accord de partenariat RDC-États-Unis, lequel accord dit à l'article 16.2 que cet accord entre en vigueur dès que les entreprises trouvent les fonds disponibles pour l'exploitation des gisements. Je viens de lire ce jour un article de Reuters que le gouvernement congolais a déjà transmis la liste des actifs constitutifs de la réserve stratégique, la première liste, à cobalt, en or, en cuivre, à lithium, à manganèse. Curieusement, toute cette liste est transmise sans que nous n'ayons obtenu ce qui était dit, c'est-à-dire le retrait des troupes rwandaises. Bref, c'est une bonne chose que l'on se retire de Uvira, l'on se retire de localités, mais nous ne devons pas être naïfs pour commencer à nous contenter simplement d'une pression qui serait menée jusqu'à les pousser à Kamanyola. Deuxième chose.
Donc le retrait d'Uvira n'est pas suffisant.
Non, c'est une goutte d'eau dans l'océan. D'ailleurs, c'est ce que je disais. Uvira a été prise et endeuillée en violation de l'accord du cessez-le-feu conclu à Doha le 10 octobre 2025. J'aurais bien voulu attendre que les États-Unis se soient impliqués dans le cadre de la surveillance du mécanisme de surveillance des accords et qu'on établisse que le Rwanda a violé ce cessez-le-feu-là, a violé cet accord et qu'il y ait des sanctions. Mais ici, rien n'est fait. Bien, on va me dire que le FCM23 ne fait pas partie de ces accords. Mais même à Doha, ici, l'M23 se retire, sans que, tel que cela est dit dans la dernière résolution reconduisant le mandat de la MONUSCO, il a été demandé à la MONUSCO de s'impliquer dans la surveillance et le respect du cessez-le-feu. Est-ce que le gouverneur peut nous dire qu'il y a un dispositif de surveillance du cessez-le-feu qui s'interpose, qui nous donne un verrou qui garantit aux populations là qu'à tout moment, demain, il ne peut pas y avoir des surprises. Ces gens-là que nous avons vu venir, de Kamanyola jusqu'à Luvungi, de Luvungi jusqu'à Uvira, à moins d'une semaine, qu'est-ce qui garantit que, dans la limite de 30 km où ils se retrouvent, sans un mécanisme d'observation de cessez-le-feu et des sanctions à l'endroit de ceux-là qui violent ce cessez-le-feu, qu'est-ce qui nous garantit que demain, il ne peut pas y avoir une surprise? Enfin, le mécanisme de cessez-le-feu, s'il aurait dû être mis en place par l'accompagnement des États-Unis, du Qatar et de tout le pays partenaire, nous permettrait de nous garantir que les informations relatives aux renforts qui sont déployés par l'FCM23 vers l'axe Butembo, Lubero-Butembo, dans les axes Walikale, le mécanisme de surveillance aurait pu nous garantir que ces renforts-là ne vont pas nous créer une surprise. Bref, que Uvira soit libéré aujourd'hui, nous saluons. Mais c'est une situation très très insuffisante et la situation demeure volatile, très très précaire.
J'ai posé la même question au gouverneur Jean-Jacques Pour aussi. Autant on a utilisé la pression, n'est-ce pas, pour pousser le M23 à se retirer d'Uvira, autant on peut utiliser la même pression pour les pousser à se libérer des autres villes, notamment Bukavu et Goma.
Non seulement les États-Unis ont prouvé qu'ils pouvaient utiliser de leur pouvoir pour que Uvira soit libéré, ils avaient déjà démontré en mars 2025, lorsque les installations d'Alpha Mine et autres étaient menacées à Walikale, les États-Unis sont intervenus, on a ordonné au M23 l'armée rwandaise de se retirer et ils ont obtempéré. C'est là que l'on se pose la question, pourquoi les États-Unis n'usent pas du même pouvoir pour ordonner que Bukavu, Goma soient libérés jusqu'à Bunagana conformément à la résolution 2573. Cela m'amène à m'interroger sur les non-dits des propos de Donald Trump lorsqu'il dit qu'il a déjà mis fin à la guerre entre le Rwanda et la RDC et qu'aujourd'hui on assiste simplement, il y a un ministre du gouvernement qui a dit que c'est par un simple tweet venu des États-Unis que Kalemi est sauvé, que Uvira a été épargné. Pourquoi cette même pression n'est pas utilisée? Que veut dire Donald Trump lorsqu'il dit que il a déjà mis fin à la guerre? Est-ce qu'il y aurait un accord d'après lequel Kagame, tu te retires des certes pleines de la Rusizi pour ne pas menacer les intérêts du Burundi, pour que la crise ne se régionalise pas? On n'ordonne pas le retrait d'Uvira, pas parce qu'on a eu pitié des populations du Sud Kivu qui sont en train de mourir dans les camps. Non, parce qu'on constate que le Burundi est menacé, la crise risque de se généraliser. Les deals consisteraient soit à dire, donc, vous épargnez le Burundi, et puis M23, vous vous retirez jusqu'à Kamanyola, et vous faites diversion à droite autour des fameux six protocoles 2006-2027. Entre-temps, vous laissez Félix exploiter et contrôler le Tanganyika, le Katanga et tout ce qui reste jusqu'à 2028. Ils se mettent d'accord parce que, comme je le disais, en lisant la manière dont le Congo a été floué par l'article 16.2 de l'accord du partenariat entre la RDC et les États-Unis. Cette clause qui dit que ce partenariat entre en vigueur dès que les fonds sont disponibles, en contradiction avec la section 4 du cadre d'intégration économique régionale, qui stipule que ce cadre sera mis en application dès qu'il y aura une exécution satisfaisante du CONOPS qui implique le retrait des troupes rwandaises. J'ai posé la question à un officiel américain. J'ai dit, pourquoi vous nous flouez, vous nous prenez pour des idiots à contourner cette clause qui était déjà stipulée à l'article 6 de l'accord de Washington du 27 juin. Il m'a répondu, dit, mais nous nous contentons de, tant que les minéraux qui sont dans les autres provinces peuvent être exploités, faut-il que les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu prennent en otage les restes des 24 provinces de la RDC. Autrement dit, on contourne la question FDLR, la question retrait troupes rwandaises n'est pas réglée. Les Rwandais s'en félicitent pour exploiter le plus longtemps possible les deux provinces. Félix, il reste au pouvoir dans les autres provinces jusqu'à l'expiration de son mandat. Les Burundiens sont épargnés. Les États-Unis et tous ces investisseurs tels que je le disais, la liste leur est transmise. Et aussi, elle on leur pas. Et ce sont ces populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, toutes ces populations congolaises qui sont flouées tout en suivant des acclamations folkloriques d'après lesquelles on nous a rendu Uvira. Uvira qui nous a été ravi alors que ces accords avaient déjà été signés.
Et donc, au finish, la paix ne revient pas?
Non. Si la paix doit revenir, c'est que personnellement j'attends des États-Unis. C'est que, un, ils ordonnent à toutes les parties de mettre en place le mécanisme de décrispation de la situation politique, c'est-à-dire les mesures de confiance. Cela avait déjà été convenu à Doha le 14 septembre. On a même impliqué le CICR pour la libération des prisonniers. Dommage que aujourd'hui Félix s'évertue à allonger la liste des prisonniers. Deux, ce que les États-Unis auraient pu faire, appuyer la MONUSCO pour que le mécanisme de supervision du cessez-le-feu soit effectif. Troisièmement, les États-Unis, tel qu'ils le démontrent, devaient faire pression, aussi bien sur Félix que sur la FCM23, pour que le dialogue inclusif interne commence, pour qu'elle retrouve la tranquillité, la stabilité le plus rapidement possible et que les bases d'une paix durable soient posées, plutôt que de nous tromper par des mesures superficielles qui ne sont que trompe-l'œil sans garantie effective de non-répétition. Encore que tous les crimes commis à Uvira et dans toutes les agglomérations périphériques, on n'a aucun mécanisme de réparation. Uvira a été pillé. combien de citoyens ont été enlevés? Personne n'a mené une enquête pendant tout le temps du séjour de l'FCM 23. Mais également, depuis que les Ouazalais ne les FAT se sont retournés, la société civile parle d'au moins 14 personnes tuées. Le gouverneur ne sait pas le dire. Rien que cette nuit, on a compté 5 morts, parmi lesquels le chauffeur de taxi-moto, M. Innocent, tué par un militaire FARDC hier, simplement parce qu'il a refusé de céder son téléphone à ces militaires-là. Bref, tous ces dommages causés sur nos populations, aucun mécanisme de réparation, il ne faut pas qu'on nous demande d'acclamer notre propre malheur.
Merci. Nous allons maintenant donner l'occasion aux nombreux auditeurs qui sont en train de vouloir donner leur point de vue. Et là, nous allons à Kisangani, où Blaise Saïdi nous attend. Pour vous, Monsieur Rigen Miviri, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani. Il s'appelle Blaise Saïdi Atoubou.
J'appelle la partie de Kisangani, les retraits de l'AFC 1-23, 40 jours après l'occupation, ne traduit ni une dynamique de paix, mais s'inscrit dans la logique des calculs politico-militaires visant à desserrer l'étau diplomatique et tout en maintenant l'intact et la capacité de remobilisation. Il met en lumière la réversibilité permanente du contrôle territorial dans l'est de la RDC et l'incapacité persistante des dispositifs actuels à transformer des retraits tactiques en stabilisation effective. Ouvira illustre ainsi un conflit où le temps, plus que l'espace, devient l'arme principale. Occuper, négocier, se retirer, puis recommencer au détriment de la souveraineté de l'État et de la sécurité des civils. Les FARDC ont-elles repris l'initiative ou se limitent-elles à combler un vide temporaire? Cette séquence occupation-retrait renforce-t-elle la banalisation de la prise des villes comme outil de négociation politique? Ces retraits d'Ouvira créent-ils un précédent stratégique susceptible d'être produit dans d'autres centres urbains du Kivu?
Regan Mouviri, votre réaction?
Je trouve très lucide, en fait, notre auditeur, en fait. Je pense qu'on l'a dit ici, on ne devrait pas s'autosatisfaire de cette mesure, d'autant plus qu'on a vu le week-end passé et depuis le début de la semaine passée, il y a eu des nouvelles avancées de rebelles dans d'autres coins, notamment, on a parlé de l'Emera et beaucoup d'autres zones d'allume. Moyen plateau. Donc, on peut penser que c'est une avancée. Peut-être au moins, sur le plan diplomatique, on sait savoir que, OK, il y a une pression qui peut marcher, mais ça ne veut pas dire que c'est un gain sur le plan militaire ou sur les niveaux du retour de l'autorité de l'État ni du retour de la paix. Donc, c'est important que l'on puisse bien considérer cet événement et qu'on considère qu'il y a encore beaucoup à pas faire. Et surtout, la question du cessez-le-feu, la question aussi, en fait, du retour effectif de la paix. Parce que là, on a comme l'impression qu'on se concentre sur... le contrôle des zones et pas forcément de la qualité de vie des gens qui vivent aussi sur ces zones-là. Parce que, ouais. L'honorable Kasekwa parlait de la ville d'Ouvira. Bien sûr, il y a eu retour de l'armée loyaliste, mais ça ne s'est pas traduit directement dans une amélioration de la sécurité des populations sur les terrains. Pourtant, la protection des civils devrait être une nécessité. On pourrait dire la même chose pour les zones qui sont occupées par le M23 aujourd'hui. Pourquoi on n'en parle pas assez? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de pression diplomatique pour que les abus, les crimes qui sont en train d'être commis dans les zones du M23 soient dénoncés et que ça soit une raison en fait de le mettre devant les responsabilités étant donné qu'ils sont autour de la table, que ce soit à Doha et avec le Rwanda à Washington. Donc il y a beaucoup de questions très très importantes qui malheureusement ne sont pas mises en avant et on a comme l'impression que ce qui intéresse les uns les autres, c'est le contrôle des territoires et la question de maintenir son pouvoir et on parle moins de la situation des populations là où elles vivent, que ce soit dans des zones occupées par le par les M23 ou dans des zones qui sont sous le contrôle des forces loyalistes.
Regan Miviri, après ce retrait du M23 de la ville d'Ouvira, qu'est-ce qui peut s'en suivre? À quoi peut-on s'attendre?
Bon, le gouverneur l'a dit. La première des choses, c'est s'assurer qu'il y a vraiment, vraiment un retour de la paix, un retour à la calme et aussi le retour sécurisé, j'insiste, de déplacés et des réfugiés. Et puis ensuite, se rassurer qu'il n'y ait plus encore une nouvelle déstabilisation. Parce que ça fait dommage, on a vu beaucoup de zones, que ce soit au nord Kivu, il y a une année, il y a deux ans, des populations qui fuyaient deux fois, trois fois, une zone prise, reprise, encore prise. Donc ça, c'est important que l'on puisse affermir ce qu'on peut considérer comme des acquis et surtout ne pas s'autosatisfaire et aller au-delà de se rassurer que les accords sont respectés, étant donné que, par exemple, pour l'instant, pour cette première phase, il a été annoncé que M23 devrait normalement rentrer jusqu'à Kamanyola et puis ensuite faire en sorte que l'on puisse se résoudre les questions importantes pour que toutes les populations soient sécurisées. Parce qu'on ne doit pas montrer comme si les populations d'Ouvira sont les plus importantes que celles, par exemple, de Minembwe ou celles de Lemera ou celles de Rutshuru quelque part là-bas. Donc, on ne devrait pas se mouvoir beaucoup plus quand ce sont des zones urbaines qui sont occupées. Et moins quand ce sont de villages. C'est autant de Congolais qui sont aussi sous cette occupation.
Merci. Monsieur le gouverneur, il y a aussi une réaction à laquelle vous allez réagir. Hein. C'est celle d'Apollinaire Tchomba qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
C'est Apollinaire Tchomba Lumbule depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Nous applaudissons cette réitération diplomatique de la ville d'Ouvira par les FARDC et Ouazalendo. Néanmoins, nous avons d'autres informations selon lesquelles les rebelles n'ont pas totalement quitté la ville. Quelques-uns sont encore visibles dans certains coins d'Ouvira et même le retrait dont vous nous parlez ne nous garantit pas car les belligérants ne sont pas partie définitivement de la ville. Ils se sont installés à moins de 20 km du millier. Pas plus tard qu'hier, monsieur le journaliste, nous avons même suivi les discours du gouverneur appelant la population à la vigilance suite à ces retraits qui n'est pas rassurant.
Oui, monsieur le gouverneur.
Oui, merci beaucoup. Hein. Je voulais vraiment remercier tous les intervenants, notamment notre frère du Nord-Nord, de l'SID, et les auditeurs, merci beaucoup. Bon, vous savez, rapidement, je dois dire ici qu'avant du gouverneur sud qui vous ai passé 26 ans dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, dans des pays en guerre, hein, à travers le monde, soit Kosovo, Irak, Libéria, Soudan, Haïti, ainsi de suite, j'ai eu à suivre beaucoup de négociations, à gérer beaucoup de crises. Et quand j'entends tous ces commentaires, vraiment, ça me fait beaucoup réfléchir. Ils sont tous pertinents, mais je voulais juste dire que, selon mon expérience que je vis ici à Ouvira et au sud Kivu en général, par rapport à l'évolution, nous sommes dans la bonne dynamique. Qu'on le veuille ou non, nous sommes dans la bonne. Jamais nous n'avons été aussi bien positionnés sur le plan politico-militaire que sur le plan diplomatique dans la gestion d'une guerre ou d'une crise telle que nous les avons vécues dans ce pays. Alors, par rapport aux interventions, je voulais juste dire que les gens se rassurent. Hein. D'abord, je pars par expérience parce que le deal, le contrat minier en question, je fais partie des experts qui ont rédigé le premier draft. Je connais un peu, ce n'est pas un mauvais contrat. C'est vrai qu'il n'a pas été trop rendu public et je comprends les raisons, la sensibilité, mais il n'est pas mauvais. Il prévoit beaucoup de choses extraordinaires pour le pays, notamment la construction des barrages hydroélectriques pour le Sud Kivu, hein, c'est-à-dire Ruzizi 3, réhabilitation de Ruzizi 1 et 2, donc finalisation de Ruzizi 3, construction de Ruzizi 1 et 2. Donc, il y a environ 1200 kilomètres de routes qui doivent être construites, enfin, pavées, et beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment beaucoup d'opportunités. Je regrette que ça n'a pas, tous ces détails n'ont pas été donnés. Maintenant, on dit que, bon, voilà, les États-Unis. Je voulais vous dire que nous travaillons avec la MONUSCO déjà pour préparer les différents processus. C'est tout un processus. Nous avons travaillé et bientôt, j'ai soumis mon plan en tant que gouverneur de province, le plan d'intervention de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu, et ce soit par la réhabilitation de l'appareil judiciaire. Donc ça, c'est un plan sur lequel on travaille avec le gouvernement central, le gouvernement provincial et la MONUSCO.
Allô? Allô, monsieur le gouverneur? Allô? Problème de connexion. Jean, avant qu'on puisse les récupérer, Jean-Baptiste de Bukassé, quoi, vous allez réagir à la réflexion de l'éditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, Jules Maguené.
Je suis Jules Maguené depuis le Sud Kivu. Je pense que le retrait de l'AFC-23 n'est pas une victoire, mais une alerte stratégique. Ce départ, présenté comme une réponse à une pression américaine, montre que les mouvements s'est combiné ses actions militaires avec des influences diplomatiques. Cependant, le retrait n'était pas sans condition. L'AFC avait exigé Uvira soit transformé en une zone tampon placée sous contrôle exclusif de la communauté internationale afin d'éviter une reprise immédiate par les FARDC et les Ouazalendo. Or, l'État congolais n'a pas respecté cette exigence. Dès le lendemain, les Ouazalendo ont envahi la ville, provoquant pillage et abus avant que les FARDC ne s'y déploient. Ainsi, au lieu de stabiliser, les vides sécuritaires a été rempli par des désordres, cela révèle une fragilité institutionnelle et une capacité à encadrer les forces supplantives. Mais si l'État échoue à transformer cette opportunité en stabilisation durable, la ville risque de replonger dans le cycle des fragmentations et d'insécurité chronique.
Jean-Baptiste Kasekwamwindo.
Non, Jules Maguené a pertinemment raison. L'État congolais doit être mis devant ses responsabilités. Probablement que l'AFC M23 nous a un piège pour montrer à la communauté internationale que, une fois de plus, Kinshasa ne parvient pas à maintenir l'ordre dans la ville d'Uvira et par conséquent, cela sera présenté comme un prétexte pour dire qu'adviendrait-il si on devait laisser à Kinshasa toutes ces zones ici. Et donc, du coup, la question de la restauration de l'autorité de l'État devient à nouveau orientée dans le sens voulu par l'AFC 23. Et donc ici, comme je l'ai dit au début, le gouvernement central doit apporter un appui significatif, imposer l'autorité. Et ici, toutes les autorités provinciales et locales devaient être les premières à se déployer sur Uvira, convaincre tout le Ouazalendo que, point n'est besoin qu'il reste dans la ville, il y a des Ouazalendo dans les hauts plateaux de Minembwe. Pourquoi les Ouazalendo se précipitent à redescendre dans la ville? Il ne faudrait pas qu'on mette ces populations-là dans un paradoxe où ces populations se sentirait comme si les 40 jours d'occupation auraient été plus sécures que les périodes d'avant l'occupation ou d'après le retrait M23. Et là, le gouvernement central est mis devant ses responsabilités pour montrer qu'il est capable d'imposer aux Ouazalendo non seulement Ouazalendo, mais également aux troupes FRDC, que la ville soit laissée sous le contrôle de la police militaire et que tous les militaires soient positionnés en dehors de la ville. Et donc, je soutiens le point de vue de Gilles Maguené.
Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission. On va commencer à conclure. Jean-Baptiste Mouni, de passer quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour capitaliser cet acquis, donc le retrait du M23 d'Ouvira, de manière à ce que cela puisse apporter la paix et que le cessez-le-feu soit effectif comme vous l'avez souhaité, hein? Vous avez commencé à parler d'imposition de l'autorité de l'État. À part cet aspect-là, il faut encore faire quoi?
Lorsque je compare le retrait d'Ouvira aujourd'hui, du retrait du M23 de Goma à novembre 2012, je trouve que les conditions sont totalement différentes. Aujourd'hui, le territoire sous occupation rwandaise M23 est le plus large. Aujourd'hui, nous n'avons plus à espérer que des troupes tanzaniennes, malawites et sud-africaines vont venir derrière les FATC pour une opération militaire. Aujourd'hui, contrairement à Kampala qui avait démontré le vide des revendications du M23 doit être à panne, au regard de tous ces contextes-là, la seule issue qui s'offre devant nous, c'est amener les États-Unis à faire pression aussi bien sur Félix que sur l'AFC M23 en vue d'un dialogue inclusif auquel tous les Congolais vont prendre part. Mais ce dialogue exige des préalables, c'est-à-dire l'effectivité du cessez-le-feu tel que contenu dans le mandat de la MONUSCO du 20 décembre 2025. Cela exige également que l'on exige de toutes les parties la création des conditions de décrispation politique, que Kinshasa cesse avec des aventures d'arrestation arbitraire pour intimider les gens à se conformer à un semblant de dialogue en faveur du glissement envisagé par l'Union sacrée. Donc, que Félix fasse un dépassement de soi. J'attends de l'Union sacrée qui disent ils sont prêts à laisser la RTC s'embraser. Si la guerre arrivait jusqu'aux portes de leur bureau, ils vont prendre la fuite et aller vivre en Occident. Nous devons leur faire pression pour leur faire comprendre que les conditions d'une paix durable passent par le dialogue.
Merci.
Parce que les contextes actuels, l'Ituri, avec la présence de l'armée ougandaise et de toutes les milices qui sont là, il est explosif. Les Bandundu avec les Mobondo et Koso, bref, il y a urgence qu'on s'achemine vers une situation d'un dialogue inclusif, précédé par un cessez-le-feu et des mesures de décrispation politique.
Merci Jean-Jacques Porroussi, gouverneur de la province du Sud Kivu. Un mot pour rassurer la population du Sud Kivu en général, mais aussi celle de la ville d'Ouvira en particulier. Vous pouvez faire ces mots-là en Swahili, monsieur le gouverneur.
Merci beaucoup Hassan Sanando à Penzi. Nous avons la population du Sud Kivu, comme Moussiski, ma commentaire. Yenye iko na faire paniquer batu musibange kope abayaya isha vide dans peu de temps tutakuwa Ouvira déjà na dans peu de temps tutakuwa bipande bishuke tutakuwa Bukavu même après la guerre mondiale ilishaka la deuxième guerre mondiale ilishaka na hivi bitaisha na biko binaenda binaisha na njoo hivi mimi naambia population kama tulideposer depuis juzi projet d'appui à la restauration de la confiance et à la réhabilitation de l'autorité de l'État dans le territoire d'Ouvira et d'autres zones sous contrôle de l'État. L'ULIS a déposé le projet, on y a travaillé, on a déjà proposé à la MONUSCO réhabilitation de l'appareil judiciaire et d'humanitaire, réhabilitation de l'autorité de l'État. Il faut dire que le M23 a pillé quasiment tout dans partout où elle est passée.
Et donc vous demandez
il faut
la population,
qu'on refasse à zéro. Même les 60 tonnes de goudron qu'on avait déjà déposé pour la construction de la route, tout ça a été pillé. Mais ne vous en faites pas, tout ça est en train de terminer. Je termine en disant que
Nous sommes en train de travailler avec l'ambassade, avec le gouvernement américain. Ces délégués sont ici et ils suivent tout les jours. On travaille ensemble.
Merci.
Et avec les délégués de la MONUSCO. On travaille ensemble tous les jours.
Voilà, la ligne du gouverneur s'est détériorée. Rigen Miviri, votre mot de la fin, hein, comment le gouvernement congolais peut capitaliser ces retraits des Dieu 23 de la ville d'Ouvira? Ça sera votre conclusion.
Oui, juste dire qu'on devrait considérer que Ouvira, c'est un test. Donc, la manière dont Ouvira va déterminer la suite, mais aussi l'avenir de d'autres zones qui sont encore occupées, finalement, devront sous la Congo. Mais tout ça, il faut que le Congo puisse prouver qu'il zone est déstabilisée.
Nous avons aussi du mal à vous suivre. Essayez de bouger un peu, Monsieur Miviri Regen. Vous disiez.
Oui, je disais que je considère que Ouvira c'est un test pour la suite et que la manière dont le gouvernement va traiter la stabilisation et le retour de l'État à Ouvira va déterminer la suite et va donner de l'espoir ou pas sur comment le retour à la paix, le retour de l'autorité de l'État se passera dans toutes les autres zones, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu et partout ailleurs au Nord Kivu où les gens ont hâte de redevenir, de se réconcilier avec le pays et avec le reste de la population et avoir aussi la possibilité de s'émouvoir et d'aller partout où ils peuvent autant que tous les autres Congolais.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Monsieur le gouverneur Jean-Jacques Epouroussi, Monsieur Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa et Rigen Miviri. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé et à André Mongou, assisté de Jean-Claude Nsiala. Qui étaient à la technique, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.